Alors, bonsoir à tous. Je vous préviens que vous êtes à une occasion dangereuse. Probablement la maison, la bibliothèque va s'écrouler ou je ne sais pas quel accident on va avoir parce qu'on n'a eu que des accidents en préparant. Madame Fabry, qui aurait dû introduire la soirée, faire les interviews, est malade. Hier, on a eu un message de Michel Mettler, que j'avais invité de me joindre ici, qu'il avait une température de, je ne sais pas, 39, 40. En tout cas, il n'est pas là. Qui me donne l'occasion, enfin, de m'introduire moi-même. Et j'ai décidé de faire un interview très strict avec moi. Je vais me poser des questions impossibles. Et essayer de trouver les réponses. Alors, soyez gentils, aidez-moi un peu. À la fin, je vais vous donner l'occasion de poser vos questions vous-même. Si vous ne faites pas, hein, je dois encore faire ça. Ça va déjà faire trois jobs le même soir. J'ai demandé qu'on triple mon honoraire, mais je n'ai pas eu de succès. Alors maintenant, j'ai le plaisir d'introduire Charles Levinsky, homme que j'ai déjà connu comme enfant, alors je le connais assez bien. Il me regarde quelquefois quand je me rase. Et je lui ai demandé quelle est sa définition d'un auteur. Et il a dit... C'est quelqu'un qui raconte des histoires. Pour moi, l'art d'écriture, c'est l'art d'un raconteur. Toutes les choses qui sont seulement question de forme, question de style, c'est pas le centre. Le centre, c'est l'histoire que vous racontez. Si vous avez pas une histoire intéressante à raconter, vous pourrez faire tous les expériments de forme, c'est toujours nul. Je sais que c'est pas tout le monde qui est d'accord avec cette idée, mais c'est ça la base de mon travail. Melnitz, le roman dont on parle aujourd'hui, et qui vient d'apparaître, je peux dire avec un bon succès en français, grâce à une traduction merveilleuse qu'a fait Léa Marcou.
Merci beaucoup. C'est parce que traduire un bon texte, ça donne...
C'est drôle, la connexion entre auteur et traductrice, parce qu'on s'est rencontrés pour la première fois hier, et c'était comme une réunion de famille, comme si on aurait passé toute la vie ensemble. Je l'ai déjà adopté, avec le titre de tante honoraire. Membre de famille, en tout cas. Oui, c'est acceptable.
Membre de la Mishpoche.
Membre de la Mishpoche. Mishpoche, c'est le mot de clé.
De la famille.
Pour ce livre-là, c'est un livre sur une Mishpoche, une famille. Une famille juive en Suisse, histoire de cinq générations, avec tant de protagonistes que je vais même pas vous donner une liste. Alors pour connaître tous les protagonistes, il faut que vous lisez vous-même. Et pour moi, il y a une grande différence entre l'histoire d'une famille juive dans notre pays, c'est complètement différent que toutes les autres histoires des familles juives sur le continent d'Europe. Parce que dans tout le reste de l'Europe continentale, une histoire de famille s'achève toujours dans la catastrophe. Toutes les histoires, une histoire qui commence comme celle-là, au 19e, on sait... ça va se finir dans la catastrophe. pour les familles juives en Europe, pour changer un proverbe, on devrait dire que tous les chemins mènent à Auschwitz. En Suisse, c'est différent. C'était une île, un îlot, au moins. Et c'est qu'en Suisse que les traditions continuent encore. Par exemple, dans ma ville de Zurich, vous avez toujours les mêmes communautés juives différentes. En Allemagne, ça n'existait plus. Ils étaient tout détruits, ils ont recommencé à zéro. C'est plus la même tradition. En Suisse, ça existe encore. Mais ce qui m'a semblé encore plus important, en Suisse, une histoire de famille juive peut garder la joie de vivre. Parce qu'on n'a pas la catastrophe automatique qui vous attend. Parce que souvent, quand je lis des romans, des récits sur des familles juives, c'est toujours, on a toujours l'impression que c'est tout un peu grisâtre. La catastrophe est toujours présente, même trois générations avant. Ici, j'ai essayé d'éviter ça. C'est une famille suisse. Pas comme les autres familles juives, mais pas suisses, mais ils ne sont pas différents parce qu'ils sont juifs, mais ils sont différents parce que toutes les familles sont différentes. Il n'y a pas deux familles qui sont les mêmes. Pour moi, on m'a souvent demandé, est-ce que pour vous c'est plutôt un roman juif ou un roman suisse? Et pour moi, évidemment, c'est un roman suisse. Comme si je lis un roman de Gotthelf qui me raconte la vie dans l'Emmental, toute petite partie de la Suisse, avec ses traditions, ses familles. C'est aussi une partie de notre pays. Et là, j'ai trouvé dans les réactions que beaucoup de Suisses m'ont dit « Ah, je n'ai pas su ça. » Ce sont des voisins que je n'ai pas connus. Mais c'est un effet aussi qui n'est pas le centre du livre, parce que ce n'est pas un récit sociologique ou scientifique. C'est une histoire d'une famille avec les amours et le contraire, et les espoirs, et tout ce qu'on a dans une famille. Et je suis sûr, si vous lisez, vous allez reconnaître beaucoup de membres de votre famille, si votre famille est juif ou chrétien ou bouddhiste. Il a eu une édition chinoise et on m'a demandé d'écrire une introduction pour les lecteurs chinois. Et j'écris, vous allez rien comprendre. Vous allez pas comprendre qu'il y a un pays qui est si petit que la Suisse et que dans ce pays-là, il y a une tout petite groupe encore, une groupe qui a autant de personnes aujourd'hui que des nouveaux-nés chinois par jour. Vous n'allez pas comprendre les mœurs, les traditions, mais il y a une chose que vous allez bien comprendre, c'est la famille. Parce que les familles, ils sont tous différents, mais ils sont aussi un peu tous les mêmes. Alors c'est l'histoire de la famille Mayer. Et déjà avec ce nom-là, il y a le problème de base du livre. Mayer, nom extrêmement suisse, mais cette famille-là s'écrit avec une lettre de plus, M-E-I-J-E-R. Et le premier titre que j'avais pour moi, dans ma tête, c'était Mayer mit Yud, parce que le J en hébreu, c'est le Yud. Mon éditeur m'a bien convaincu que ce n'était pas un bon titre. Puis je lui ai proposé un deuxième titre, et parce qu'il a cru, il ne m'a pas connu, alors il a cru que j'étais homme sérieux. Il a pris au sérieux. Je lui ai proposé un autre titre. J'ai dit, on va appeler Judenbrocks. Drôlement, ça ne lui a pas plu non plus. Alors on s'est décidé sur le nom de Melnitz. Et Melnitz est un membre de la famille Meyer, comme il est membre de toutes les familles juives, pas seulement en Suisse, mais partout. Melnitz, le protagoniste qui a donné le titre au livre, n'est pas comme les autres protagonistes, un caractère réaliste. C'est un homme qui est déjà mort quand le roman commence, mais qui revient toujours après sa mort, qui est toujours présent, un revenant. Vous connaissez peut-être la légende chrétienne du juif errant qui ne peut pas mourir parce qu'il a fait quelque chose d'affreux. Une tradition chrétienne. Là, ce revenant, l'oncle Melnitz, c'est le contraire. Il ne peut pas rester mort à cause des choses affreuses qu'on a fait à lui. C'est lui qui porte les mémoires de l'histoire juive, qui, pour la plupart, sont des mémoires pas trop agréables, des mémoires de persécution, des pogroms, etc. Et c'est peut-être un problème des Juifs. On a trop de mémoires à porter et on n'est pas assez de personnes pour les porter. On est poursuivi par les mémoires. Les Chinois dont j'ai parlé, ils ont aussi beaucoup d'histoires dans leur mémoire, mais ils sont 2 milliards. Ils peuvent partager les mémoires entre eux. En Suisse, nous ne sommes pas assez. Drôlement, il y a une statistique, il y a un an ou deux, en Suisse, et on a essayé de trouver quel pourcentage des Suisses a des idées préconçues sur les Juifs, des idées qu'on pourrait appeler antisémites. Et on a trouvé en Suisse, c'était à peu près, incroyablement, 10% de la population qui ont des idées comme ça. Nous, Juifs, nous sommes 0,2% de la population qui, statistiquement, en théorie, fait 50 antisémites par juif. Ça me semble un peu trop. Mais le problème qui se pose aussi pour les protagonistes du roman, c'est pas tellement ou pas toujours l'antisémitisme, c'est l'idée fixe qui, parce qu'ils sont juifs, ils sont quelque chose de spécial, quelque chose de différent, pas des vrais Suisses. Je me souviens, un journaliste qui a fait une interview avec moi, journaliste très sympa d'ailleurs, qui, si je l'aurais demandé, certainement aurait dit qu'il était très très philosémite, m'a demandé, dites-moi, monsieur Levinsky, vous êtes plutôt juif ou plutôt suisse? Et comme la tradition veut qu'un juif répond toujours à une question avec une autre question, j'ai dit, et vous, monsieur, vous êtes plutôt blonde ou plutôt végétarien? Ce sont aussi deux choses qui n'ont rien à foutre l'un avec l'autre. Il a pensé que j'étais vachement impoli. Mais il y a ce problème qui existe toujours. Par exemple, si vous êtes juif, on vous pose toujours la question, qu'est-ce que vous pensez de la politique israélienne? Là-dedans, il y a toujours l'idée indirecte En effet, vous êtes citoyen d'Israël. Ma réponse est toujours là, toujours la même. J'ai pas le temps de m'en occuper. J'utilise tout mon temps d'avoir honte de la politique de Blocher. D'ailleurs, petite histoire, la connexion entre ma famille et la famille Blocher, c'est intéressant. Mon grand-père, c'était un monsieur Bloch, non, très proche. Mon arrière-grand-père est devenu citoyen suisse dans les années 80 du 19e. La même année, une autre famille a reçu le passeport suisse, c'était la famille Blocher. Drôlement, la même année. Mais je crois que personne n'a jamais demandé à M. Blocher, est-ce que vous êtes plutôt allemand ou plutôt suisse? C'est drôle, hein? L'histoire que je raconte ici, c'est toujours l'histoire des membres de la famille Mayer, et ils ont tout le même problème. Ils cherchent leur place dans la société. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être accepté? Et ils essayent des stratagèmes. C'est un mot qui existe en français? Je suis impressionné. Ils essayent des stratagèmes différents. Il y a l'un qui essaye de devenir le plus bourgeois des bourgeois. Il y a un autre qui se fait baptiser pour être accepté. Il y a un autre qui cherche sa rôle dans la religion, dans l'orthodoxie. Il y a un autre qui devient zioniste et dit « Ah, je vais quitter la Suisse parce que je ne trouverai jamais ma place ici. » Mais c'est toujours le même problème. Comment être accepté? Mais pour ne pas vous donner une fausse impression, ce n'est pas un roman que de ces problèmes d'acceptance de la société. C'est un roman, je crois, plein de vie, plein d'histoires, plein de protagonistes. Et pour vous donner une première impression, Léa Marcou va nous lire un chapitre. Imaginez, vous êtes au fin du 19e, dans la petite ville de Baden. La famille qui avant, comme tous les juifs en Suisse, a vécu dans un des deux petits villages en Argovie où seuls les juifs avaient droit de vivre, avait enfin quitté ce village. Ils ne sont pas allés loin, mais au moins jusqu'à Baden. Ils ont un magasin d'étoffes. Ils sont en train de devenir acceptés dans la société. Ils sont extrêmement bourgeois. Alors imaginez une pièce dans un appartement très bourgeois, tous les meubles un peu trop grands, toujours un peu trop décorés, les gens autour de la table un peu trop polis, un peu trop bien habillé. Vous le voyez? Alors, ils sont au dîner. Et puis, la situation change.
Puis survint un visiteur. À une heure où, à Baden, personne ne faisait de visite. Louisette l'annonça, de la voix qu'elle aurait prise pour faire part d'un essai. « Il y a quelqu'un qui veut voir ces messieurs-dames. Un monsieur Kamionker. » Dans les livres où Arthur se plongeait dès qu'il avait une minute de libre, on disait parfois de quelqu'un qu'il avait le souffle coupé. Il avait toujours cru qu'il s'agissait d'une expression du genre « il en eut froid dans le dos » ou « ses cheveux se dressèrent sur sa tête ». Mais quand Hinda entendit le nom du visiteur, ce fut exactement cela. Elle en eut le souffle coupé. Salman Kamionker paraissait déjà peu à sa place chez Mimi et Pinchas à Zurich. dans la salle à manger de Yankee, conçue non pas pour le bien-être, mais pour faire grande impression, il semblait, avec ses grosses chaussures et son pantalon reprisé, aussi incongru que M. Bischoff, le concierge Goy, qui, à Yom Kippour, où tous les hommes portaient leur sargnes blanc, leur vêtement mortuaire, se glissait dans son costume sombre râpé à travers la salle de prière pour aller fermer ou ouvrir la fenêtre. Sauf que M. Bischoff rentrait la tête dans les épaules comme pour se rendre invisible, tandis que Tzalman Kamyonker se tenait planté, jambes écartées sur le beau tapis, avec autant d'assurance que s'il était le maître de maison et les autres les intrus. Il avait légèrement relevé sa graisseuse casquette en cuir sur son front, tel un ouvrier qui s'apprête à attaquer une tâche difficile. « Je suis venu, dit-il avec son étrange accent semi-souabe, semi-yiddish, je suis venu parce que mademoiselle Hinda a déjà quitté Zurich. » Hinda scruta le contenu de sa cuillère comme s'il n'existait rien de plus fascinant qu'un bout de pomme de terre et un filament de viande. À propos, Madame Pomerantz ne va pas très bien. À midi, elle était pâle comme un linge, mais elle vous fait dire de ne pas vous inquiéter. Qu'était-ce donc que cet inconnu qui lui apportait des nouvelles de Mimi, pensa Hanele. J'ai quelque chose à communiquer à Mademoiselle Hinda, si vous permettez, poursuivit Kamyonker. Si vous permettez, avait-il dit. Mais toute son attitude laissait à penser qu'il disait toujours ce qu'il avait à dire, que cela plaise ou non. Yankee se redressa de toute sa taille, comme le faisait M. Delorme face aux importuns. Ce lieu était encore sa salle à manger, et il n'avait pas invité ce bizarre personnage. De quoi qu'il s'agisse, ça ne peut pas attendre demain? La question était manifestement théorique, mais Tzalman Kamyonker ne semblait pas sensible à l'inexprimer. Il réfléchit un moment, avec le visage grave d'un homme qui doit prendre une décision importante, puis secoua la tête. « Non, dit-il, ça ne peut pas attendre demain. » Et, sans que nul ne l'en ait prié, il saisit une chaise et s'assit auprès d'eux à la table. « Voilà quelqu'un qui ne fait pas de manière, » pensa Hanele. « Peut-être voudriez-vous en plus une assiette ?» demanda Yankee, sarcastique. « C'est très aimable à vous. » Le visiteur non désiré secoua la tête. « Plus tard, peut-être. » Il posa ses deux mains sur la nappe comme l'on prépare un outil dont on aura besoin par la suite. Ses ongles n'étaient pas tout à fait propres. Hinda avait toujours sa cuillère à la main, un filet grisâtre de soupe aux pommes de terre goûté inaperçu dans son assiette. « Alors ?» dit Yankee impatiemment. Monsieur Delorme disait toujours « Alors ?» sur ce même ton. Kamyonker hocha la tête en signe de remerciement, comme si on lui passait la parole lors d'une réunion publique. « Eh bien voilà, dit-il, j'étais à Zurich pour ce congrès et maintenant il est terminé. » C'est alors que Hanele fit la relation avec l'homme dont Mimi lui avait parlé. « Vous êtes l'Américain, dit-elle. Le Yankee de Coloméa, oui. Et vous avez pris le train pour Baden dans le seul but de dire adieu à ma fille ?» Du coin de l'œil, Arthur jeta un regard sur Hinda. Elle se mordait la lèvre inférieure comme Golda autrefois, se souvint-il. Et il pensa, ça doit faire mal. Eh bien voilà, répéta Kamyonker. J'ai passé ces derniers jours au congrès et j'y ai fait la connaissance d'un homme de Vitebsk, un cordonnier. Mais Nebich, le pauvre, aussi chétif qu'un tailleur. Son frère a émigré à New York et deux de ses oncles aussi. « Auriez-vous l'amabilité de nous expliquer en quoi cela devrait nous intéresser ?» l'interrompit François de sa voix polie la plus impolie. Kamyonker le regarda avec une aussi placide curiosité qu'un touriste contemplant un édifice local peu commun. « Ça ne vous intéressera pas du tout, dit-il, mais peut-être votre sœur, n'est-ce pas, mademoiselle Hinda ?»« Je ne vois pas pourquoi, dit Hinda. » Arthur était surpris. Il avait l'ouïe fine et décelait dans sa voix quelque chose qu'il ne connaissait pas. « Je vais me faire un plaisir de vous l'expliquer, » dit Tzalman Kamyonker. Hinda rejeta la tête en arrière sans qu'on puisse savoir si c'était un geste de refus ou pour mieux mettre en valeur ses beaux cheveux. « Ce cordonnier, » poursuivit Kamyonker, Il se nomme Yohanan, comme le rabbi Yohanan du Talmud, qui d'ailleurs était lui aussi cordonnier. Ce cordonnier a donc toute sa famille en Amérique. Et lui, il gîte à Vitebsk, où un socialiste est aussi aimé qu'une puce dans le lit de jeunes mariés. Ce que gagne un cordonnier, on le sait, moins que rien. Et il doit faire son Shabbat avec. D'ici à ce qu'il ait mis assez de côté, qu'il ait mis de côté assez d'argent pour aller en Amérique à son tour, il aura une barbe jusqu'à terre, bien qu'il ne porte pas la barbe. Il l'a coupée le jour où il a lu Karl Marx pour la première fois. Le jour même, m'a-t-il dit. Kamionker racontait sans hâte, en homme habitué à parler en public et qui compte bien ne pas être interrompu. 10 jours durant, il m'a répété combien son frère lui manquait, m'a cassé les oreilles avec ses lamentations. Chaque jour de cet inutile congrès, cela devenait insupportable de l'entendre krachten ainsi. Les Meyer étaient des juifs suisses et ils n'employaient pas ce mot, mais ils le comprirent quand même. « Que pouvais-je faire ?» demanda Kamionker. « Il fallait que je le calme, d'une façon ou d'une autre. » Il ouvrit les bras comme s'il voulait enlacer quelqu'un. « Je lui ai donc donné mes billets. » Inda, qui ne rougissait jamais, sentit ses joues devenir brûlantes. À New York, les fabricants juifs de manteaux s'étaient cotisés, chacun donnant ce qu'il pouvait pour envoyer Salmon Kamionker les représenter à ce grand congrès en Suisse. Un billet de bateau, d'accord, dans l'entrepont le moins cher, mais une traversée est une traversée et on ne vous en fait pas cadeau. Et un ticket de chemin de fer. En 4e classe, ça va de soi, mais ça coûte quand même. Et lui, qu'est-ce qu'il en fait ? Il les donne à un type dont il vient tout juste de faire la connaissance, un cordonnier de Vitebsk. Il est déjà en route, dit Kamionker. Zurich Paris, Paris Le Havre, Le Havre New York. Oui, mademoiselle Inda, c'est ainsi. Inda ne le regardait pas, l'ignorait de toutes ses forces à la manière dont on peut se contraindre à ignorer une personne qui vous intéresse plus que tout autre. Ce fut donc Ranele qui demanda, et vous ? Je reste en Suisse, dit Kamionker. Un tailleur a de la chance, il peut mourir de faim n'importe où. Je ne vois aucun inconvénient à ce que vous mouriez de faim, dit François Glacial, mais je vous en prie, ne le faites pas ici. Kamionker lui sourit comme s'il venait d'entendre un compliment. À New York, il avait participé à beaucoup de réunions, prononcé beaucoup de discours et savait comment manier les mauvais coucheurs. Vous avez là une intéressante moustache, dit-il. Je ne savais pas qu'en Suisse, Pourim était si tard. À la fête de Pourim, on se déguise, sans reculer devant le ridicule. Si Hanele n'avait pas ri aussi fort, François aurait trouvé une réplique cinglante. Kamionker lui tourna le dos avec mépris, comme l'on se comporte envers un adversaire écrasé qu'on n'a même plus besoin de garder à l'œil, et se tourna vers Yankee. « Et puisque je reste ici, dit-il, j'ai à vous parler, monsieur Meyer. » Il cherche un emploi, pensa Yankee. « Il est ailleurs et je vends des vêtements. Mais que le diable m'emporte si je m'encombre d'un pareil enquiquineur. »« Je regrette, commença-t-il. » Mais Kamionker lui coupa la parole. « Peut-être vous serait-il plus agréable que nous nous retirions dans une autre pièce ?»« Je n'y songe pas un instant, dit Yankee. » Il chercha sa canne de la main, comme pour attraper une arme. « À votre guise !» Kamionker frappa dans ses mains si fort qu'Arthur sursauta, puis fit craquer ses doigts. « Il a des mains robustes, » pensa Inda. Et elle attendit en retenant son souffle ce qu'il allait dire. « Avez-vous un syndicat dans votre entreprise ?» demanda Salman Kamionker. « Un syndicat ? Est-ce pour cela qu'il était venu ?»« Pourquoi voulez-vous le savoir ?» demanda Yankee. Eh bien, parce qu'en ce cas, certaines choses seraient plus faciles à expliquer. Mes employés n'ont pas besoin de syndicats. Peut-être, dit Kamionker. Ou peut-être que si. On pourrait en débattre, mais ce sera pour une autre fois. Nous en aurons l'occasion. Certainement pas, pensa Yankee. Eh bien voilà, dit Kamionker. Si vous aviez déjà négocié avec des syndicats, vous sauriez qu'il existe 2 sortes de revendications. Celles dont on peut discuter et celles qui ne sont pas négociables. Absolutely non négociables. Est-ce clair ? Cet homme est meshuggah, pensa Yankee. Complètement meshuggah. Dans notre cas, monsieur Meyer, nous pouvons discuter de tout. Kamionker tendait ses paumes ouvertes, comme dans les histoires d'Indiens que lisait Arthur, faisaient les chefs quand ils voulaient montrer qu'ils n'avaient pas déterré l'âge de guerre. Je vais même plus loin. Vous pouvez décider comment vous voulez qu'on le fasse et on en fera selon vos désirs. Je suis un homme pacifique. Une seule chose n'est pas négociable. De quoi donc parle-t-il ? Pensa Hilda. Pas négociable. En aucun cas, dit Salmon Kamionker. De quoi donc parlez-vous ? Demanda Yankee. De mademoiselle Hilda, naturellement. Je vais l'épouser. Il avait dit épouser ? Tout le reste, on peut en discuter, dit Kamionker. À la cuisine, la grosse Christine s'occupait pendant toute cette soirée à consoler Louisette qui n'arrêtait pas de pleurer. Les passionnants événements qui se déroulaient dans la salle à manger passèrent donc inaperçus des deux femmes. Cette fois pourtant, il aurait valu la peine d'écouter à la porte. Yankee dit non. Bien évidemment, non. Voici que surgissait un inconnu, un homme qu'on ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam, qui n'était rien et n'avait rien, et voulait sans façon. C'est hors de question, dit Yankee. Et comme cet intrus, ce va-nu-pied de Kamionker semblait ne pas entendre, il répéta par deux fois, hors de question, absolument hors de question. On disait pas mal de choses sur les mœurs des Galiciens, qu'ils étaient encore plus rustres qu'ailleurs. Peut-être qu'à l'Est, ces manières de chiffonnier étaient tout à fait courantes. Ils ne se permettraient pas de juger. C'est-à-dire, sans jugement était fait, et toute discussion superflue. On n'était pas dans les Balkans et pas davantage en Amérique, et par conséquent, le chapitre était clos. Point final. Le mieux, d'ailleurs, serait qu'à présent, M. Kamionker se retire, et vite fait. M. Kamionker se contenta de sourire, ainsi qu'autrefois, lorsqu'il tissait des talis à Coloméa, il avait souri à Simon Heller dans son bureau, et précisa que M. Meyer ne l'avait sans doute pas bien entendu. Il avait pourtant dit très clairement que ce point n'était pas négociable. Yankee leva sa canne, prêt à en frapper un coup sur la table, mais la laissa aussitôt retomber. Non par pusillanimité, bien sûr que non. Après tout, il avait fait la guerre. Mais le pommeau à tête de lion venait d'être recollé, et le tourneur l'en avait averti, le précieux objet ne pourrait être réparé une deuxième fois. François, en revanche, les pointes de ses moustaches hérissées, sauta sur ses pieds, attrapa Kamionker par le col, empoigna l'épais tissu de sa veste et somma l'hôte important de prendre la porte. Mais celui-ci resta calmement assis, comme si personne ne le tiraillait et s'acharnait sur lui. Et c'est seulement lorsque François, de l'autre main, essayait de le hisser, à la façon des gens maladroits tentant de soulever un lourd paquet, que Kamionker l'écarta d'une chiquenaude. C'est le mot exact, l'écarta d'une chiquenaude, avec la mine de quelqu'un qui se bagarre avec des turbulents amis. Puis il avait ri de toutes ses grandes dents blanches, comme à la palmeraie, lorsqu'il avait trébuché, était tombé assis au sens propre du terme, sur les genoux de Hilda. La police, implora François hors d'haleine, il faut appeler la police. La police ? Narischkeit, dit Salman Kamionker. Encore un mot qu'en Suisse on ne connaissait pas sous cette acception, insanité, mais qu'on comprenait bel et bien. Il prit une carafe en cristal sur la table et la soupesa dans sa main comme s'il vérifiait ses qualités de projectile. François se mit à l'abri derrière sa chaise. Avec une fierté mêlée d'un peu d'incrédulité, Arthur constata qu'il n'avait pas peur alors qu'il aurait eu mille raisons pour cela. Kamionker contempla la carafe et la reposa sur la table. « Vous êtes des gens riches, » dit-il à Yankee. « Soit, je ne l'ai pas choisi, mais je ne peux rien y changer. » Alors, si c'est à cause de la dot, nous n'en avons pas besoin. Tout ce que j'ai eu dans la vie, je l'ai dû au travail de mes mains. Il ne s'agit pas de la dot. Yankee éleva un peu trop la voix et appuya un bras sur sa hanche, comme le faisait souvent M. Delorme. Comme vous voudrez, je vous l'ai bien dit, sur tous ces points, je m'en remets volontiers à vous. Pour la seconde fois en deux jours, Yankee se mit à crier. Si Louisette avait collé l'oreille à la porte, elle en aurait appris encore bien davantage qu'hier, mais elle était trop occupée à épancher son cœur à la grosse cuisinière. On peut y penser un corps lourd tant qu'on veut, il n'en deviendra pas plus léger pour autant. De même, Yankee avait beau exprimer sa rage à grand bruit, elle ne diminuait pas. Au contraire, elle ne cessa de croître, au point qu'au bout du compte, il ne fut plus capable que de halètement, comme lorsqu'on expulse l'air d'un estomac trop ballonné. Sauf qu'en l'occurrence, il n'existait point de bicarbonate de soude susceptible de le soulager. À un moment donné, il se tut. L'éruption de colère avait pris fin. Salman Kamyonker avait patienté avec un calme total. Un pompier qui sait, à la minute près, quand un feu de Bengale se sera consumé. Il se tourna vers Hanele. « Et vous, Madame Meyer, qu'en dites-vous » Hanele le regarda, de haut en bas, de la graisseuse casquette de cuir aux chaussures de paysan, des cheveux en broussailles aux ongles bordés de noir. Elle haussa les sourcils, de telle sorte que la ligne noire semblait courir au milieu de son front. Puis elle posa la question qu'Arthur aurait posée depuis longtemps s'il avait été non pas rien qu'un petit garçon, mais un adulte, au même titre que les autres. « En avez-vous déjà parlé à Inda ?» Inda, qui avait toujours sa cuillère à soupe à la main, la reposa, avec autant de précaution que l'on dépose sur une feuille une bête à bon Dieu qui a volé vers vous. « Nous ?» fit Hanele comme Kamyonker ne répondait pas. Salman était aussi décontenancé que seul peut l'être un individu à qui ce sentiment est tout à fait étranger. Eh bien, voilà, dit-il en se mettant à bégayer. Je pensais devoir demander d'abord aux parents. Narishkeit, dit Hanele, qui savait déjà que cela deviendrait l'un de ses mots favoris. Je voulais, dit Kamyonker, demandez-lui. Entre-temps, Yankee avait retrouvé la parole. « Il n'en est pas, commença-t-il. « Chat, silence !» ordonna Hanele. Salman Kamyonker, qui pendant tout ce temps avait montré une telle assurance, contemplait maintenant ses mains comme on regarde un instrument dont on n'a jamais appris à jouer. Puis, il les tendit vers Inda, du geste timide d'un jeune enfant chargé de remettre un bouquet de fleurs à une reine. « Mademoiselle Inda, demanda-t-il, voulez-vous ? » Inda le fit attendre. Plusieurs interminables secondes. Puis elle dit, « Que faire si ce n'est pas négociable ?» Voilà.
Oui, ben merci. Mais vous avez bien raison d'applaudir, parce que c'est une traduction merveilleuse.
Je l'entends et j'ai l'impression que c'est moi qui ai fait une traduction en allemand, que ça doit être écrit dans cette langue-là, c'est parfait.
Mais le travail du traducteur, c'est de faire en sorte qu'on puisse penser que ça a été écrit en français.
La question qui m'est toujours posée, c'est est-ce que c'est votre famille que vous décrivez là? Non, ce n'est pas ma famille. Ma famille n'est pas tellement intéressante. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a eu vraiment un drôle d'accident. Dans ce roman, je décris le jour où le club sportif juif à Zurich reçoit son drapeau dans une cérémonie très traditionnelle. Et j'ai décrit le porteur de drapeau dans un costume à l'ancien allemand, avec des gants immenses, une écharpe, etc. Et quand le livre était déjà en vente, j'ai trouvé un photo d'une telle cérémonie du club sportif zurichois. Il y a eu un porteur de drapeau. Il était habillé exactement comme je l'avais décrit. Et c'était mon grand-père. Alors probablement, je crois, je dois avoir vu ce photo comme enfant. Je l'avais complètement oublié, mais ça s'est revenu. C'est la seule explication que j'ai. Mais à ce temps-là, pour moi, c'était... C'est impossible, mais j'ai inventé ça. Mais je crois que les écrivains croient toujours d'avoir inventé quelque chose. Et si on voit bien, c'est un mémoire. J'ai parlé du oncle Melnitsky, du revenant. Et le roman s'achève l'année 38, mais il y a une coda à l'année 45. Et pour finir cette soirée, Léa va nous lire le dernier chapitre, le coda,
en 45.
Après sa mort, il revenait, toujours. Ses chaussures étaient couvertes de poussière, comme après un long et pénible trajet, mais il marchait d'un pas léger, aérien, tel un danseur qui entend déjà la musique alors que les instruments ne sont même pas encore accordés. Il entra sur la pointe des pieds, comme quelqu'un qui ne veut pas déranger, et tira la porte derrière lui, comme quelqu'un qui a décidé de rester longtemps. Il gardait les yeux fermés, non comme un dormeur, mais comme quelqu'un qui a assez d'image en lui-même. Il n'avait pas besoin de voir le chemin pour trouver sa place. Sa chaise était prête. On l'attendait. On l'avait même attendu au temps où l'on croyait qu'il ne reviendrait jamais. L'espérait encore. Il s'assit. Il était de nouveau présent. Il n'avait jamais cessé d'être présent. Après sa mort, il revenait. Toujours. Il aspira l'air nouveau. D'abord avec circonspection, comme quelque chose d'étranger, d'oublié, dont on doit commencer par se souvenir, puis avec habilité, en long trait impatient. Ses poumons grinçaient à la façon d'une machine restée longtemps inutilisée. Il fit « Ah !» comme après la première rafraîchissante gorgée d'eau par une chaude journée. Ouvrit les yeux, regarda autour de lui et les reconnut tous. Il ne les avait jamais oubliés. Ils évitèrent son regard, il s'en aperçut et sourit. « C'est ma Shiva à moi !» disait ce sourire. « C'est moi que l'on pleure !» Ma Shiva à moi, dont personne ne me chassera. Je suis l'oncle Melnitz qui tient son nom de Chmeljenitsky. L'oncle Melnitz. Il se racla la gorge et toussa. Expectora des taches sombres dans un mouchoir aussi grand qu'une carte routière. Assez grand pour y trouver une liste des pays où il avait connu la mort. Un drapeau blanc, comme ceux qu'on agite lorsqu'on veut se rendre. Il sentait l'humidité, la base, les souvenirs. Éveillé des odeurs de pays lointains, comme le premier magasin de Yankee avait recelé l'arôme de la cardamome et du muscat. Mais ce n'étaient pas des épices qu'il leur apportait. Ils venaient de pays froids, chargés de bruit qui vous serraient la gorge. Lorsque quelqu'un le fuyait, il ne se lançait pas à sa poursuite. Il restait assis et lui disait au revoir d'un geste de la main. Puis, quand l'autre rentrait chez lui, il y attendait, confortablement installé à sa table ou dans son fauteuil préféré, sous la lampe, ou encore couché dans son lit, vêtu d'une longue chemise blanche qui n'était pas une chemise de nuit. Ils s'asseyaient en face d'eux quand, au petit déjeuner, ils lisaient leur journal, et quand ce qu'ils y apprenaient les épouvantait et qu'ils disaient « Nous ne savions pas », et ils le lisaient chaque jour, saisis chaque jour d'une épouvante renouvelée. Quand ils ne lisaient pas jusqu'au bout, posait le journal et ne voulait plus rien savoir parce qu'il ne supportait pas de savoir. Alors, d'un geste réconfortant, il leur tapotait la main et disait « Vous auriez dû me le demander. Il vous suffisait de m'interroger. » Il ne l'avait pas interrogé, car il redoutait ses réponses. Il n'était jamais parti, et maintenant il était partout. Au bord du lac, il était assis sur tous les bancs, ses yeux écarquillés fixaient le soleil, et pourtant sa peau restait pâle comme s'il n'était jamais sorti de l'ombre d'une cachette. Il s'approchait de toutes les voitures d'enfants, se pliait en deux pour regarder dedans, et chaque fois il était déçu. Il mendiait du pain à chaque porte, juste pour le laisser assire et dire ensuite « Ils m'ont cassé les dents ». Si quelque part quelqu'un riait, il apparaissait dans sa chambre et posait un doigt sur ses lèvres, un doigt osseux avec lequel il pouvait aussi tambouriner sur la table, imiter le crépitement précis d'un peloton d'exécution. Sur tous les arbres généalogiques, il cueillait des noms, au hasard, les entreposait dans de grands paniers, fruits verts qu'il savait distiller pour en faire une eau de vie que personne ne buvait sans que les larmes lui montent aux yeux. Il était assis dans toutes les bibliothèques et inscrivait des notes dans les marges des livres. Il écrivait à l'encre rouge, trempait son archaïque plume d'oie dans ses propres veines et devenait de plus en plus pâle. Lorsque deux amoureux s'embrassaient, il se plaçait derrière eux. Lorsqu'ils s'aimaient, il s'allongeait auprès d'eux, leur murmurait à l'oreille des mots doux qui ne leur étaient pas destinés. Il avait toujours une histoire à raconter au jeune couple, puis une autre et une autre encore, et dans aucune d'elles, ils ne vivaient heureux jusqu'à la fin de leurs jours. Il donnait des noms aux enfants, et chaque fois était capable de citer 1000 autres enfants qui avaient porté le même, et connut un sort tragique. Il grattait le mastic des fenêtres, si bien que les vitres s'est détachées et le vent soufflait dans la pièce. Il mangeait ce mastic, l'enfournait avec habilité et le mâchait de sa bouche édentée. Il avait dans sa poche une flûte grossièrement taillée, la sortait, jouait sans fin de tristes mélodies et exigeait que tous fredonnent pour l'accompagner. Il parlait de pays lointains où il avait fait froid. Oh, un froid terrible! Il s'approchait des gens par derrière et les entourait de ses bras osseux afin de leur montrer comment, là-bas, on essayait en vain de se réchauffer. Il s'asseyait à toutes les tables et l'on avait beau remplir son assiette, elle restait vide. De sa fourchette, il transperçait sa propre main et dans sa cuillère, il raclait des encoches, une nouvelle chaque jour. Tous les miroirs envoyaient son image. Il y souriait, blême et patient, et son visage s'infiltrait dans le visage de quiconque s'y regardait comme un colorant indélébile. Il le contaminait de sa maladie incurable, s'incorporait à lui de façon indissoluble. Bientôt, personne ne savait plus qui il était et qui était cet autre. Après sa mort, il revenait, toujours. Il faisait partie de la famille. Il faisait partie de toutes les familles. Quand il parlait de Rouben, et quand n'en parlait-il pas, il répétait son nom comme une invocation. Rouben, Rouben, Rouben. Hinda et Salman avaient vieilli. Ils étaient devenus plus vieux que leur âge et ne vivaient plus que dans le passé. Ils restaient assis sous la Shabbos lamp que l'on n'allumait plus, car de toute manière, elle ne pouvait faire s'envoler les soucis. À regarder les photos, toujours les mêmes, encore et encore, jusqu'à ce que l'oncle Melnitz les leur prenne les mains et les déploie sur la table comme des cartes à jouer. Il leur rapporta comment le jeu s'était déroulé 12 années durant avec le chiffre des levées. Une partie après l'autre, et il n'en avait gagné aucune. Il savait où Rouben avait été arrêté et où on l'avait emmené, quel jour et à quelle heure, où d'abord et où ensuite, par quel chemin et dans quel convoi. Il raconta où quelqu'un l'avait encore vu et où plus personne ne l'avait rencontré. Quel avait été son sort avant que sa trace ne se perde, indissolublement mêlée aux millions d'autres traces que, elles aussi, l'oncle Melnitz connaissait toutes, dont il pouvait relater le destin durant de longs jours sombres et de longues nuits blanches. Il parlait avec calme et sans hâte, comme quelqu'un qui sait qu'il ne se trouvera jamais à court d'histoires à raconter. Innombrables histoires. Il savait, à propos de la femme de Rouben, qu'elle était née Sternberg, à Berlin, et que tout le monde l'appelait Lisette. Ces deux noms, Lisette et Sternberg, étaient tout ce qui restait d'elle. Tout le reste avait été emporté par un vent glacé, poussière grise et flocons de cendres. « Les fleurs poussent mieux aux endroits qu'ils balaient, » dit-il. Il ne se souvenait pas très bien de leur bruit. Il ne l'avait vu qu'à l'occasion de leur visite ou de ses visites à elle. Merci. Et cela ne permet pas de se connaître vraiment. Pas comme l'on souhaite se connaître. Il n'aurait même pas su dire la couleur de ses cheveux. Les photos étaient en noir et blanc, noir et ivoire, noir et brun. Chaque fois qu'il feuilletait l'album, son visage leur devenait plus étranger. Un seul détail subsistait, inoubliable, cette petite singularité qui reste un vestige de chaque humain s'il a de la chance. Cet unique détail semblable à un clou auquel on peut accrocher quelque chose, une image ou un souvenir. On l'appelait Lisette, même à l'âge adulte, rien que Lisette. Même ses enfants en avaient pris l'habitude. On se souvenait de cela après avoir tout oublié de sa personne. Ils avaient été 4 enfants, 3 garçons et une fille. On les voyait sur une photo et jamais ils ne grandiraient. Seul l'oncle Melnitz était capable de les distinguer l'un de l'autre, savait encore leur nom. Il était le seul à avoir encore joué avec eux. Et maintenant, il voulait apprendre ce jeu à tous les autres. On se compte, puis on tape dans les mains et l'on chante Am, Stram, Gram. Après sa mort, il revenait, toujours. Ici, à Zurich, il était un étranger et pourtant chez lui, comme il était chez lui dans tous les lieux d'où on l'avait un jour chassé. À la fête des corporations, il participait au défilé, vêtu d'un costume folklorique plus ancien que ceux de tous les autres, trépignait avec ses chaussures poussiéreuses au rythme de la fanfare. Les bouquets que l'on lançait aux autres se desséchaient dans ses mains. Il saluait, riait, faisait de grands signes et était l'invité d'honneur. Au stand de tir, Il se plaçait devant la cible, déboutonnait sa redingote noire et du geste priait les tireurs de ne pas le faire attendre. Il aimait aussi prendre en main les cartons noirs et leur indiquer les points d'impact, à la poitrine, au ventre, au front. À la fête de Saint-Sylvestre des écoles, il allait à l'aube de maison en maison et, à grand tapage, tirer les gens du lit en disant « C'était souvent à cette heure-là qu'il venait ». Quand Adolphe Rosenthal passait devant l'école cantonale, il était retraité et avait dû dire adieu à son pouvoir en même temps qu'à la clé de la salle des professeurs. Lorsque, tout à fait par hasard, il passait devant ce que, par pur hasard, il faisait chaque jour, et levait les yeux vers son ancienne salle de classe où personne n'aurait osé l'interrompre, l'oncle Melnitz se tenait à la fenêtre, le saluait d'un geste impatient et criait « Tu arrives trop tard, mon cours a déjà commencé ». Ils avaient beaucoup à apprendre de lui, et cette fois, il les obligeait à l'écouter. Il avait eu raison, comme il avait toujours eu raison. Il revenait et faisait son rapport. Raconter lui redonnait vie. Il avait apporté de nouvelles histoires, beaucoup de nouvelles histoires, chacune si mortellement vivante que les anciennes en pâlissaient. À l'époque moderne, tout est plus grand, mieux et plus efficace. 6 millions de nouvelles histoires. Un gros livre que pendant une génération entière, l'on pourra compulser sans relire ne serait-ce qu'une fois le même récit. Des histoires incroyables, surtout ici en Suisse, où l'on a vécu toutes ces années sur une île, à pied sec au milieu de l'inondation. Des histoires qui ne voulaient pas entrer dans les têtes, pas ici, où les provisions n'ont jamais été épuisées. Pour faire la cuisine, on allumait son feu, sans s'apercevoir qu'on le faisait sur le dos d'un poisson géant, et que s'il s'avisait de se rouler dans l'eau une seule fois ou de battre des nageoires, l'on se retrouverait aussitôt écrasé, étouffé et noyé. On ne le savait pas ici en Suisse. On l'apprenait maintenant et on aurait préféré ne jamais l'apprendre. Il racontait, racontait et racontait et avait été si souvent enterré qu'il lui paraissait presque ennuyeux d'y penser. Les histoires qu'il avait apportées n'avaient pas pour sujet les hauts faits de héros. Elle n'était pas du genre qu'on connaissait dans ce pays. Hillel, par exemple, était resté 5 ans posté à la frontière. Il avait défendu sa patrie le fusil à la main et bientôt aurait à défendre une autre patrie. Seulement, personne n'avait encore trouvé la lame pour découper celle-ci sur la carte. Hillel avait été un héros au service actif ou bien avait obtenu l'autorisation officielle de commémorer un acte d'héroïsme. Et il avait suspendu au mur dans un beau cadre le portrait d'un soldat vert foncé sur le qui-vive, les yeux fixés sur le lointain avec la même irréductible vigilance que le chômeur sur une autre image du temps passé. L'oncle Melnitz aimait le regarder, inclinait la tête pour mieux voir la signature du général Guisan et disait à Hillel « N'oublie pas de nettoyer ton fusil ». Melnitz aimait la Suisse. On peut avoir peur de la guerre, mais prendre plaisir à jouer avec des soldats de plomb. Il aimait ce pays où l'on se plaint de la faim quand le chocolat vient à manquer. Il était intéressant de visiter l'Arche de Noé après son voyage de 1000 ans. Il immobilisait les aiguilles dans les horlogeries de la Bahnhofstrasse. « Ici, rien ne change, disait-il. Pourquoi le temps bougerait-il » Au marché de la Bürkliplatz, il allait d'étal en étal et demandait aux paysans des fruits pourris et des épluchures de pommes de terre. « Je m'y suis habitué, expliquait-il. Pourquoi devrais-je changer mes habitudes ? » Au grand magasin de François, il se plantait dans toutes les vitrines, toujours derrière l'emblème de la firme, se plaçait de telle sorte que le soleil projetait l'ombre de l'enseigne sur sa poitrine, ou le cercle dans lequel s'entrecroisaient les lettres du nom Meyer se dessinait sur son cœur comme le centre d'une cible. « Ça me va bien, n'est-ce pas ? » répétait-il. « Meyer, avec ou sans J ?» Il tenait compagnie à François à son travail. Après avoir écarté les photos de Mina et d'Alfred, il s'asseyait sur son bureau avec un petit geste courtois qui devait signifier « Ne te dérange pas ». Il regardait François vérifier les comptes, additionner des colonnes de chiffres, hochait parfois la tête d'un air approbateur et disait « Un beau résultat, tu es arrivé à quelque chose ». Il aimait le tintement des caisses et la froide solennité des coffres forts. Il gravait des signes secrets sur les lingots d'or, connaissait leur origine et l'indiquait. Lorsque, la nuit, les rideaux de fer descendaient avec un bruit métallique pour protéger les richesses, il se laissait enfermer, étudiait les colonnes de chiffres bien ordonnées dans les livres et n'arrêtait pas de rire. Dans l'obscurité, il se promenait souvent, bras dessus, bras dessous, avec Monsieur Grune. Il récitait en silence de vieux textes. « Bonjour, Monsieur Grune, bonjour, Monsieur Blau !» Ou, chaussé de bottes d'uniforme, marchait au pas dans les rues étroites de la vieille ville et effrayait les gens par les chansons qu'il chantait dans leur tête. Il logeait dans les cimetières, ceux de Steinkluppe, Binz, Friedrichsenberg, et de ses ongles grattait les dates inscrites sur les tombes. « C'était hier, disait-il. Hier, hier, hier. » Après sa mort, il revenait, toujours. À chaque enterrement, il disait le kaddish. À chaque mariage, il cassait le verre. À chaque brise, tenait l'enfant sur ses genoux. Et à chaque bar mitzvah, était le premier à lever le gobelet. « Le chaim » s'écriait-il, « à la vie !» Lorsque trois hommes récitaient la prière après le repas, il était le quatrième. Lorsque 10 se réunissaient pour le minyan, il se tenait auprès d'eux, faisant le 11e. Lorsque, une fois l'an, l'on dansait avec les rouleaux de la Torah, il était le premier des danseurs, puis le dernier. Et les jours de jeûne, il se frottait le ventre et disait « C'est ce que vous appelez avoir faim ? Ça, ce n'est rien du tout. » Après sa mort, il revenait, toujours. Il rendait visite à Désiré dans son magasin, où les gens se rencontraient pour se fournir en beurre cochère, en gâteau sec cochère et en ragot cochère. Il lui apportait des bonbons passés de mode à l'odeur d'amande et d'eau de rose, avec lesquels il jouait à des jeux de patience sur le comptoir, et le gagnant avait droit à une nuit sans souvenir. Il connaissait tous les secrets et les révélait aussi à ceux qui ne voulaient pas savoir. Il passait chez Arthur et Rosa, devenus un couple heureux sans jamais avoir été un vrai couple. Ils vivaient à présent Morgatenstrasse, dans le grand appartement qui avait autrefois appartenu à Mini et Pinchas, et ensuite à Désiré. Et lorsque, le soir, ils s'asseyaient sur le canapé, comme le font les époux, l'oncle Melnitz s'asseyait entre eux, un bras autour des épaules d'Arthur et l'autre autour de celle de Rosa, et ils faisaient partie de la famille. Les enfants n'étaient plus des enfants, surtout Irma, qui, avec son ensorcelant strabisme, tournait la tête à tous les jeunes hommes de la communauté. Mais l'oncle Melnitz s'agenouillait quand même auprès de leur lit et leur murmurait des nuits entières, des contes, des histoires où se passaient des choses terribles. Alors tout le monde finissait par appeler Goliath, mais Goliath ne venait pas. Lorsqu'il se réveillait en criant, il s'éloignait, allait se revigorer avec une grande gorgée du liquide contenu dans la bouteille en cristal verrouillé du Tantal. Il pouvait y boire sans l'ouvrir. Il avait appris tant de choses dans sa vie. Après sa mort, il revenait, toujours. Il n'était pas venu seul. Cette fois, il avait amené du renfort. À soi seul, impossible de raconter un tel nombre d'histoires. Ils emplissaient toute la ville, tout le pays, la terre entière. Ils nichaient dans les combles, dans des malles qui avaient raté l'heure de départ pour Outre-mer. Ils se cachaient dans les caves, sous des tas de chiffons qui un jour avaient été des habits de fête. On les rencontrait dans tous les coins. Ils étaient installés dans la calèche pour le Gothard devant le musée national suisse. Cinglés sans chevaux jusqu'au bout du monde. À la gare, ils écrivaient à la craie des chiffres sur les wagons de marchandises. À la Neugasse, ils fouillaient la brocante du Brockenhaus à la recherche d'objets qui leur avaient appartenu et n'en voulaient plus s'ils les trouvaient. Au Sprungli, ils raclaient leurs assiettes en fer-blanc pour dévorer les dernières miettes de gâteau à la crème. À la terrasse de la Fleischhalle, ils se mettaient en rang comme pour l'appel. Parfois seulement, l'un d'eux se jetait dans la limate et avait la chance de s'y noyer. Ils étaient partout. Ils étaient perchés sur tous les arbres, tels une nuée d'oiseaux noirs, et jouaient aux échecs. Melnitz avait sculpté les pièces dans des ossements. Il était capable d'indiquer l'origine de chaque pion capturé, son pays et le nom de sa famille. Il savait tout et ne permettait à personne d'oublier. « Profitez de la vie, dit-il. Vous avez eu de la chance ici en Suisse. » Après sa mort, il revenait toujours. Merci.
C'était Charles Levinsky et la traductrice Léa Marcoux avec des extraits de Melnitz enregistrés le 27 janvier 2009 à Genève.